Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une demi-heure d'entretien pour devenir prof, faute de candidats suffisants aux concours enseignants. La plus grosse académie de France se lance dans un recrutement géant de contractuels pour la rentrée prochaine. 4 jours de job dating, car dans l'urgence, l'éducation nationale n'a plus vraiment d'autre choix. Des signalements chaque week-end et un mystère qui s'épaissit. 300 plaintes déposées depuis fin mars pour des piqûres en boîte de nuit, information France Inter. Et reportage à suivre. Au sommaire aussi, la ministre française des Affaires étrangères en Ukraine, on l'apprend à l'instant. La colère des Britanniques après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Et une question, l'échec des joueurs tricolores est-il une fatalité à Roland-Garros?
Et au micro de Léa Salamé, à 7h50, aujourd'hui, le chef du Parti démocrate italien, président de l'Institut Jacques Delors, notre Europe, Enrico Letta. Quand les concours ne suffisent plus, Alexis, pour trouver des enseignants.
Et c'est une petite annonce passée sur les réseaux sociaux et à laquelle on n'est pas vraiment habitué pour ce métier.
Et si vous aussi, vous choisissiez l'Académie de Versailles, vous souhaitez transmettre et enseigner à nos élèves, les plus jeunes comme les futurs adultes. L'Académie de Versailles recrute, alors rejoignez-nous.
L'Académie de Versailles, celle qui compte le plus d'élèves en France, se lance donc dans le job dating. 4 journées de recrutement express à partir d'aujourd'hui face à la pénurie de professeurs pour la rentrée prochaine. Partout en France, les concours enseignants sont loin de faire le plein. C'est encore plus vrai dans cette partie de la région parisienne. Moins de 500 admissibles pour 1400 postes de professeurs des écoles. Le rectorat espère donc recruter 2000 contractuels via des entretiens d'une demi-heure environ. Une solution en urgence pour que chaque classe ait un prof en septembre, Jean Rino.
Lors de ces job dating, étudiants et jeunes actifs vont être directement confrontés à des inspecteurs de l'éducation nationale. Une procédure qui répond à une vraie situation d'urgence pour Laurent Zamekowski. Il est vice-président de la PEP à l'Académie de Versailles.
On a des problèmes pour recruter des enseignants dans les matières scientifiques, dans les langues, en techno, en éco, en musique. Voilà, on ne trouve plus de profs de musique, c'est complètement fou aujourd'hui.
Mais ce recrutement massif inquiète aussi les parents. Désormais, les contractuels peuvent être embauchés avec un simple niveau licence. Et ça ne rassure pas Emmanuel, dont les deux filles sont scolarisées à Neuilly-sur-Seine.
C'est un peu juste pour les grandes classes. Avec une licence, je pense qu'on est apte à enseigner, mais pour le lycée, je pense qu'il vaut mieux quelqu'un de titulaire. C'est quand même plus rassurant.
Du côté de l'Académie de Versailles, la rectrice Charline Avenel l'assure, pas question de faire n'importe quoi. Chaque professeur recruté sera suivi et formé pendant son parcours.
Nous, ce que nous allons faire, c'est les accompagner dans la prise de poste pour qu'ils aient du confort quand ils vont être devant les élèves, mais également les accompagner dans leur développement professionnel pour qu'ils puissent ensuite passer des concours.
Durant ces journées de recrutement, des postes de psychologues scolaires, AESH et infirmiers sont aussi à pourvoir.
Et en tout cas, ces journées de recrutement attirent du monde. Quasiment tous les créneaux sont complets sur 4 jours. La pénurie d'enseignants, comme de soignants d'ailleurs, sujet brûlant pour le prochain gouvernement, la campagne officielle des élections législatives commence aujourd'hui, à moins de 2 semaines du premier tour. Vous allez voir apparaître les affiches des candidats sur les panneaux électoraux, mais aussi les clips de campagne à la télé et à la radio.
Il est 7h33 à chaque week-end désormais, son lot de piqûres en boîte de nuit.
Un phénomène très inquiétant ou amplifié par une psychose collective. Les signalements continuent en tout cas de se multiplier. Information France Inter ce matin, près de 300 plaintes ont été déposées depuis la fin mars, 150 rien que pour le mois de mai, sans qu'on connaisse pour l'instant les motivations des agresseurs, jamais interpellés, ni ce que contiennent les seringues. En attendant, les gérants d'établissements redoublent de vigilance, comme vous l'avez constaté, William Delesseux, dans l'est de Paris.
À la porte discrète du nouveau casino, il veille sur la sécurité. Pas de piqûres recensées ici. Augustin Lunda prend la menace très au sérieux.
Ça nous inquiète parce qu'on est quand même au premier rideau, hein, nous les agents. Comment on peut préserver nos clients, ça devient très compliqué. Lui, c'est inquiétant un peu en ce moment. On essaye de voir les clients qui se présentent à nous. Hein.
Vous ne laissez pas entrer tout le monde.
On ne laisse pas rentrer tout le monde, surtout pas. Les habitués, généralement, ils rentrent. Malgré tout, il y a quand même une fuite au niveau des hommes et des femmes. On palpe bien, donc on a quand même 2 agents à l'entrée. Et puis, on essaie d'intervenir au maximum.
Ouvrir l'œil à l'intérieur aussi, Loane Tabonne, la directrice d'exploitation.
On n'a pas pris de mesures spécifiques pour cette histoire de seringue, mais on est très vigilant dans la salle, on tourne beaucoup. Dès qu'il y a un malaise d'un client, on cherche à savoir la cause. Nous, on a toujours appliqué ça.
Avec une amie, Philippine commence tout juste sa soirée dans le bar d'à côté.
Quand je suis en boîte et qu'on est tous les uns sur les autres, de me dire, si là je me prends une piqûre,
Personne ne le voit, je suis avec personne autour, on tombe dans les pommes, c'est parti, on nous emmène aux toilettes et c'est terminé quoi.
C'est un scénario que vous vous êtes fait là.
Oui, complètement. C'est pas les vigiles ou les barman de la boîte qui vont faire attention à vous. Hein.
Auprès des gérants des lieux de nuit, les policiers ont mené, d'après nos informations, des actions de prévention ces derniers jours.
Et les professionnels du monde de la nuit se retrouvent aussi aujourd'hui pour une deuxième rencontre nationale sur la soumission chimique en milieu festif. C'est une information de la rédaction internationale de Radio France. La ministre française des Affaires étrangères est sur le point d'arriver à Kiev. Une première pour un membre du gouvernement depuis le début de la guerre en Ukraine. Catherine Colonna doit se rendre notamment dans la ville martyre de Boutcha et rencontrer Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui doit aussi s'exprimer cet après-midi en visioconférence lors du sommet européen de Bruxelles. Les dirigeants des 27 vont tenter de s'entendre sur un embargo sur le pétrole russe et ce n'est pas gagné. La Hongrie, qui dépend aux deux tiers de la Russie pour son approvisionnement, freine toujours des quatre fers. En Russie, pendant ce temps, se construit toujours au fil des semaines un récit alternatif sur ce conflit en Ukraine. Le musée de la Victoire à Moscou, consacrée à la Deuxième Guerre mondiale, vient d'ajouter une salle à son exposition permanente. Sous le titre « Le nazisme ordinaire », elle relate la version du Kremlin, à savoir la renaissance du nazisme en Ukraine. Sylvain Tronchet l'a visité.
Aucun lieu plus que le musée de la Victoire à Moscou ne permet de comprendre l'omniprésence du souvenir de la Deuxième Guerre mondiale en Russie. Des dizaines de classes d'école primaire le visitent tous les jours et jouent à la guerre avec leur guide.
Je pars en éclaireur pour vérifier que la voie est libre. S'il me tue, vous me vengerez, les amis.
Au premier étage du musée, la nouvelle salle consacrée au nazisme ordinaire est interdite aux moins de 18 ans en raison de la violence de certaines images, mais on y voit quand même des enfants avec leurs parents. Ambiance sonore angoissante, un drapeau ukrainien côtoie une croix gammée et une vidéo se termine sur un détournement de l'hymne nazi « Ukraine über alles », peut-on lire sur l'écran. Larissa est venue de Sibérie visiter le musée et elle a été impressionnée.
C'est la première fois que je viens dans ce musée très émouvant. On y voit comment les nôtres ont survécu au nazisme ou en sont morts. Et aussi la comparaison avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, où le nazisme prospère. Et je ne veux pas de ça.
L'exposition compare également les massacres de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Ukraine avec le génocide qui aurait lieu dans le Donbass. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
La Colombie en passe d'élire le premier président de gauche de son histoire. L'opposant Gustavo Petro arrive largement en tête du premier tour avec plus de 40% des voix. Au second tour, il affrontera un candidat indépendant, le millionnaire Rodolfo Hernandez. C'est une déroute historique pour la droite traditionnelle au pouvoir jusque-là.
Il est 7h38 et à 2 ans des JO, il va vite falloir tirer les leçons des ratés de la finale de la Ligue des Champions.
Et ça commence ce matin, réunion à 11h au ministère des Sports. Organisateurs, autorités, élus locaux autour de la table pour revenir sur l'enchaînement des couacs samedi au Stade de France. Qui est responsable de la pagaille? Ces supporters de Liverpool agglutinés pendant des heures, des stadiers dépassés par les tentatives d'intrusion dans l'enceinte. Pour le préfet de police, c'est avant tout à cause du grand nombre de faux billets. Didier Lallement saisit d'ailleurs la justice pour, dit-il, cette fraude massive. Mais en Angleterre, Richard Place, on pointe surtout le comportement de la police française et la colère ne retombe pas chez vous.
Honteux, le mot revient sans cesse dans la bouche des fans mais aussi de nombreux élus. Ils visent les policiers français, inutilement violents selon eux. De nombreuses vidéos circulent où l'on voit des supporters anglais aspergés de gaz lacrymogène alors que la situation paraît calme. Un journaliste britannique qui avait filmé les débordements affirme qu'il a été contraint de les effacer sous peine de voir son accréditation retirée. Les ministres ici restent prudents et parlent de scènes préoccupantes. L'un d'entre eux pointe tout de même un comportement très agressif des forces de l'ordre. Quand la police de Liverpool, dont plusieurs agents étaient à Saint-Denis, parle de l'attitude exemplaire de la vaste majorité des supporters. Toujours aux abords du stade, des fans anglais racontent des jeunes qui leur auraient arraché leur billet des mains, ça c'était avant le match, et au moment de repartir, d'autres évoquent des petits groupes qui les auraient menacés, frappés et volés. Une véritable soirée de cauchemar. Londres, Richard Place, France Inter.
Et comme si cela ne suffisait pas, nouvelles images déplorables hier soir, cette fois en championnat. Saint-Étienne relégué en Ligue 2 après sa défaite au tir au but face à Auxerre, dans une ambiance délétère à Geoffroy Guichard. La pelouse envahie à peine la rencontre terminée, fumigène et gaz lacrymogène jusque dans les vestiaires et des affrontements avec les forces de l'ordre à l'extérieur du stade. De quoi faire passer au second plan la remontée des Auxerrois dans l'élite 10 ans après l'avoir quitté. Ambiance bien plus feutrée rentrée à Roland-Garros, où le choc que tout le monde espérait aura bien lieu. Rafael Nadal retrouvera Novak Djokovic demain en quart de finale. L'Espagnol s'est qualifié hier soir, mais dans la douleur, en 5-7 et plus de 4 heures face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Cette deuxième semaine commence une nouvelle fois sans aucun Français. Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon partent à leur retraite et la relève n'est pas prête. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Jérôme Val a posé la question à d'anciens grands champions.
Quand on interroge John McEnroe sur la santé du tennis français, le septuple vainqueur en Grand Chelem prend le temps de peser ses mots. Il sait que la question ici cristallise certaines frustrations.
Vous avez eu une période avec 4 joueurs dans le top 10, mais là, je ne vois rien venir. Les Français sont des passionnés de tennis. Ce sont des temps difficiles pour vous.
Le problème, explique l'Américain, c'est que faire émerger un champion prend du temps et qu'il faut beaucoup de moyens, John McEnroe.
Le jeu aujourd'hui est beaucoup plus rapide. Il faut être bon partout et ce n'est pas donné à tous. La clé, c'est d'avoir un énorme réservoir de jeunes joueurs. On a le même problème aux États-Unis. Les meilleurs athlètes préfèrent jouer au foot américain ou au basket.
American football and basketball.
Un système à réformer, c'est aussi l'avis de Justine Hénin. La Belge, 4 victoires à Roland-Garros, va plus loin. Les mentalités doivent également changer dans l'entourage des joueurs.
Moi, je pense vraiment que la formation des jeunes entraîneurs est quelque chose d'important, mais on voit aussi que chez les jeunes entraîneurs, ils veulent moins voyager, ils veulent plus d'équilibre. Et donc, dans un métier qui est très exigeant quand même au niveau de l'investissement, on sent que ça, c'est plus difficile.
Un vaste chantier et une urgence. En même temps, la dernière apparition d'un Français en quart de finale à Roland-Garros remonte à 2016.
Plus de Français porte d'Auteuil, mais à suivre aujourd'hui les derniers huitièmes de finale, avec notamment le grec Tsitsipas contre le danois Rune et le russe Medvedev, numéro 2 mondial, contre le croate Cilic.
Alexis Morel, merci. Et l'édito politique à suivre.